Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nous disons, si vous voulez, la prière à notre âme du travail. Je ne sais pas si vous l'avez sur vous ou si je la dis. Notre-Dame du travail, je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes, mes réussites. Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs, mes espoirs et mes ambitions. À ceux qui ont un métier, donnez la joie du travail bien fait et celle d'un véritable épanouissement. À ceux qui sont accablés par un travail épuisant ou dégradant, à ceux qui cherchent un emploi, qui se sentent inutiles ou rejetés, donnez la confiance et la persévérance. À ceux qui portent les soucis de la responsabilité, qui travaillent dans l'angoisse du lendemain ou le découragement de la routine, à ceux qui fuient la réalité du quotidien, donnez le dynamisme de l'espérance. À celles qui portent le beau travail de l'enfantement, donnez le rayonnement dans la joie de l'attente et la paix dans l'inquiétude. Soyez la consolation de celles à qui la vie semble se refuser. Notre-Dame du travail, ô notre Mère, donnez-nous la force et la docilité de Saint-Joseph. Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs fermés. Apprenez-nous la pauvreté dans la richesse, la patience dans le dénuement. Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus fragile. Que nos mains soient les vôtres pour encourager, réconforter, consoler, et notre cœur le vôtre pour partager, aimer et vivre la miséricorde. Amen. Notre-Dame du travail, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous salue tous et je redis en introduction. N'attendez pas de ces conférences un travail achevé. C'est un travail en chantier. Pierre-Yves, est-ce que tu pourrais fermer la porte après Emmanuel, s'il te plaît, en appuyant sur le bitonio. J'ai parfaitement conscience et je vous en demande pardon. Non, je vous en demande pas pardon parce que c'est un fait. C'est pas un travail achevé du tout. C'est-à-dire, c'est pas une conférence. En bonne et due forme. D'ailleurs, je ne sais pas très bien faire les conférences en bonne et due forme, moi. Mais c'est un. J'ouvre des pistes de recherche. Alors, ça, par contre, je l'avoue, je ne passe pas des heures à travailler ces choses-là, parce que ce n'est pas possible pour moi. Donc, j'y travaille un peu, mais pas suffisamment. Et donc, j'essaye d'ouvrir beaucoup de pistes pour poursuivre le travail après. C'est-à-dire, ça, c'est la paroisse après mon départ et mon successeur qui poursuivra les pistes. Et je suis bien conscient et très heureux d'ailleurs que mon successeur ouvrira de nouvelles pistes pour découvrir davantage ce que notre âme du travail a à nous dire, à nous apporter. Alors aujourd'hui, c'est le 9e jour de la neuvaine, enfin c'est la conférence sur la dernière journée de la neuvaine. Le travail et l'Eucharistie, c'est un peu ça qui donne son sens complet à tout le reste. Je reviendrai je ne sais plus à quelle date c'est annoncé, je reviendrai sur la première des conférences, parce que ce n'est pas moi qui l'avais faite, donc c'était un peu autre chose, dans une autre optique, mais je voudrais essayer, en tout cas, d'achever ces 9 jours avec les pistes que moi-même j'ouvre et j'essaie d'ouvrir. Aujourd'hui, donc, le travail et l'Eucharistie, je vous lis ce texte de la prière de la neuvaine. Vierge Marie, humble servante du Seigneur, votre vie tout entière est une offrande à Dieu, et le Verbe s'est fait chair de votre chair. Et il nous donne sa chair comme le pain de vie et son sang comme la coupe du salut. Comme il est grand le mystère de la foi. Apprenez-nous à nous offrir chaque jour, dans et par notre travail. Notre-Dame du travail, avec vous et par vous, nous portons à la table eucharistique l'humble offrande des travaux, des fatigues et des peines de tous les hommes de ce temps. Nous le croyons, le Seigneur en fera le pain de la vie. Alors ça situe un peu l'orientation. Vous savez que un des gestes phares de notre paroisse, et peut-être que ça pourrait être développé. Je rêvais en arrivant dans la paroisse, mais ça se fera peut-être un jour. Je rêvais de grandes processions dans le quartier avec Notre-Dame du Travail portée en triomphe et la procession avec les boulangers, les épiciers, les droguistes, les ingénieurs, les syndicalistes, toutes les corporations qui sont un peu représentées d'ailleurs au pied de Notre-Dame du Travail dans l'église, toutes les corporations qui pourraient rendre grâce au Seigneur par la prière de Notre-Dame du Travail et qui pourraient faire une espèce d'immense offrande du travail des hommes. Et un peu en miniature, c'est un peu une préparation de cette réalisation que j'aurais souhaité depuis déjà plusieurs années, pas mal d'années même. Le jour de la fête de Notre-Dame du Travail, nous apportons symboliquement à l'autel, chaque paroissien apporte, dépose à l'autel un objet qui représente le travail quotidien, qui représente son occupation quotidienne. Aussi bien qu'on soit enfant, retraité, au chômage, PDG, femme de ménage, enfin, quelles que soient nos occupations quotidiennes, nous avons des occupations quotidiennes. Et pour ceux qui n'ont pas d'occupation quotidienne, eh bien, il faudrait amener le creux. Enfin, on a tous des occupations quotidiennes, ne serait-ce qu'un lit, un oreiller, je sais pas quoi. Enfin, ceux qui passent leur journée à dormir, ils peuvent apporter leur oreiller, je sais pas. Enfin, on a tous le moyen d'apporter ce qui fait notre quotidien pour le déposer à l'autel, parce que c'est ça qui va donner, c'est ça qui va être la matière eucharistique. Et puis, c'est ce qui donne, alors ça je le dis en exergue, mais c'est l'offrande qui donne sens à toute chose. Rien n'a de sens que par l'offrande. Rien n'a de sens que par l'offrande. Notre vie n'a pas de sens autrement que dans l'offrande. Alors, je voudrais remonter assez loin, assez haut en fait, parce que l'origine, évidemment, elle est en Dieu. L'origine, elle est en Dieu, elle est dans la Trinité. En fait, dans le mystère de la Sainte Trinité, c'est une triple offrande. Le Père est tout entier offert au Fils, puisque le Père est tout entier donné au Fils. Le Fils n'est que le don du Père, comme le don du Père reçu. Et comme en Dieu, il ne peut donner que ce qu'il est, puisqu'il n'a rien d'autre que ce qu'il est. En Dieu, l'être et l'avoir ne font qu'un. Pour nous, c'est très différent. Peut-être d'ailleurs que pour nous, il faudrait que notre avoir devienne de plus en plus notre être et réciproquement. À condition que ce soit l'être qui prenne le dessus. À condition que notre être ne se perde pas dans les biens matériels. Il faudrait que les biens matériels ne soient plus que l'expression de notre être. Ça, c'est une grande question, c'est une très, très, très grande question pour la civilisation d'aujourd'hui. Parce que quand le pape dit la culture du déchet, la culture du superflu, le consumérisme et tout ça, il faut bien avouer que dans nos vies, il y a une quantité de choses qui sont en surplus et qui ne correspondent pas du tout à notre être, qui sont des choses que nous avons, que nous accumulons. Au moment où on commence à préparer un déménagement, je peux vous dire, on fait des grands ménages, mais on peut remplir des poubelles entières. Et c'est difficile, d'ailleurs, parce que on s'aperçoit qu'on accumule des choses. Enfin, vous êtes très sain, donc ça ne nous arrive pas. Mais pour moi, j'ai des choses que j'ai accumulées, mais que j'ai depuis 12 ans, qui n'ont pas bougé depuis 12 ans de l'endroit où je les ai mises quand je suis arrivé. Et je me demande un peu s'il faut que je continue à les garder et à les transporter dans un autre endroit où je vais les poser là où je vais arriver. Et 12 ans plus tard, si Dieu me laisse 12 ans au même endroit, ce sera encore au même endroit. Enfin, il y a des chances. Bref,
Le modèle, évidemment, étant Dieu, il n'y a aucun avoir qui ne soit de l'être. Et donc, le don de Dieu, Dieu ne donne pas une partie de lui-même. C'est d'ailleurs, vous vous rappelez dans la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, qui reçoit le même salaire que celui de la première heure, mais Dieu ne peut pas donner une partie. Dieu ne peut donner que tout ce qu'il est, puisque le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et donc, il ne peut pas donner un petit peu de vie éternelle à l'un et beaucoup de vie éternelle à l'autre. La vie éternelle, c'est un tout, et c'est lui-même, d'ailleurs. Donc, il se donne, et il ne peut se donner que tout entier. Et donc, il se donne tout entier au Fils. Le Père se donne tout entier au Fils. Il n'y a pas de don plus parfait. C'est-à-dire, on ne peut pas concevoir un don plus parfait que celui-là. Ce don du Père au Fils est plus parfait que le don le plus parfait qu'on puisse concevoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est la perfection du don. Mais la caractéristique du Fils, dans l'éternité, c'est que ce don reçu éternellement est éternellement redonné et absolument redonné. De sorte qu'il n'y a rien qui ne soit redonné. Nous n'avons pas l'expérience de ce don parfait. Rien dans notre monde à nous n'est parfait. Parce que, ne serait-ce que par le seul fait que nous sommes dans le temps, il y a forcément une déperdition. Il y a de l'énergie qui se perd. Et parce que nous sommes dans le temps et nous sommes en croissance, et donc nous bénéficions du don, alors nous redonnons avec le bénéfice de la croissance, mais il y a l'échange parfait dans la Trinité, mais nulle part autrement que dans la Trinité n'existe ce don parfait échangé. Le Père est tout entier absolument donné au Fils. Le Fils reçoit, se reçoit. Le Fils n'a rien qu'il n'ait reçu du Père. Je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je trouve ça fascinant, c'est de méditer sur cette réalité, de contempler cette réalité. C'est fascinant parce que moi je découvre qu'il y a une quantité de choses qui sont de moi, mais qui ne sont pas reçues. Je ne vis pas que de ce que je reçois. Je vis de ce que j'accumule, je vis de ce que j'engrange. Le Fils naît, le Fils n'a d'être, le Fils n'a et ne possède que ce qu'il reçoit de son Père. Et il se redonne tout entier. C'est-à-dire, le Fils, il est l'offrande parfaite. L'être du Fils, c'est l'offrande au Père. C'est une phrase très difficile que dit Jésus à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis la résurrection? Je ne sais pas si vous avez déjà médité vraiment sur cette réalité, mais c'est très difficile de comprendre ce que c'est être la résurrection. Je peux comprendre à la limite quelqu'un ce que c'est que être ressuscité, mais comprendre ce que c'est que être la résurrection. Je suis la résurrection. Quand Jésus dit « Je suis la lumière », bon, déjà, on a du mal à voir ce que c'est la lumière. Hein. Mais quand Jésus dit « Je suis la résurrection », ça veut dire « Je suis celui qui meurt et qui vit de cette mort ». Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en se donnant, il meurt lui-même en permanence. Donc il est éternellement dans ce don qui est une mort à lui-même pour ne vivre que de ce qu'il se donne. C'est puissant, hein? Vous comprenez ce que je veux dire ou ça vous paraît complètement un langage... Mais c'est très impressionnant. Dans ce temps pascal cette année, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas perçu à ce point encore. Très souvent, on reste dans le temps. Bon, il est mort, ça y est, il est ressuscité, il est vivant. Mais non, il demeure dans la mort jusqu'à la fin du monde. Et il demeure. Il est celui qui jaillit de la mort en permanence. Et en fait, entrer dans la résurrection, c'est entrer dans ce mouvement qu'est le Christ. Je ne suis pas mort à moi-même une fois pour toutes, et je le sais trop bien. Il faut qu'en permanence, j'entre dans ce mouvement de mort et de résurrection. Quand je dis, quand je vous dis souvent « je suis dans la vie éternelle », oui, je suis dans la vie éternelle depuis mon baptême, mais ma vie éternelle n'a pas encore pris tout en moi, loin de là. Loin de là. Un jour, je serai dans la plénitude de la vie éternelle, quand je n'aurai plus rien à moi qui ne sera offert. La vie éternelle, c'est d'entrer dans ce mouvement de vie qui est un don total au Père. C'est ça, entrer dans le sein du Père. Et ça ne peut être fait que par lui, avec lui, en lui. Nul ne peut aller au Père que par moi. Je suis la porte des brebis. Et nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le révèle. Et si le Père est tout entier don au Fils, si le Fils est tout entier don au Père, le Père et le Fils ensemble, alors ça c'est un mot théologique, mais on n'a pas, on a pas de mot dans la langue courante pour dire ça. Le Père et le Fils spirent l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint, c'est cet échange d'amour entre le Père et le Fils qui est l'Esprit-Saint. Et qui, l'échange d'amour entre le Père et le Fils est tellement parfait que c'est l'amour lui-même, et l'amour lui-même, c'est Dieu. Et donc l'Esprit-Saint est une personne divine. Esprit-Saint qui sanctifie et qui donne la vie. Vivificantem est Dominum, est Seigneur qui donne la vie et qui sanctifie. Et donc, les trois personnes n'ont. Alors, évidemment, le Père et le Fils sont un dans ce don, ils sont un dans un même esprit, qui est l'esprit du Père et du Fils. Et en fait, les trois personnes sont un, absolument un, dans cette communion d'amour, mais en même temps, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. L'Esprit-Saint n'est ni le Père ni le Fils. Ils sont parfaitement distincts, les trois, mais unis dans une communion d'amour parfaite. C'est très très impressionnant d'essayer d'étudier le mystère de la Sainte Trinité. Mais en général, ça m'agace parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui disent « la Trinité, c'est un mystère, on ne peut pas comprendre ». C'est quand même complètement idiot, il faut pénétrer le mystère. Il faut essayer de... Bien sûr, ça dépasse totalement ma conception, ça dépasse totalement mon intelligence, mais en même temps, mon intelligence peut dire quelque chose de ce mystère. Et elle doit le dire, elle doit creuser, elle doit... Et quand... Enfin, j'ai le sentiment que depuis que je commence à réellement méditer et contempler ce mystère... Il y a des choses qui apparaissent, et à force d'en parler, à force de chercher, on découvre un peu plus la nature du Père, la nature du Fils et la nature de l'Esprit-Saint. Et c'est important parce que je ne comprends l'homme qu'à l'image de Dieu. L'homme n'a pas de sens autrement que parce qu'il est image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image il le fit. Homme et femme, il les fit. L'homme n'a pas de sens, l'homme n'a pas de signification autrement que dans cette image de Dieu. L'homme est incompréhensible si je ne sais pas qu'il est image de Dieu. C'est pour ça que le monde contemporain ne peut rien savoir de l'homme. On ne connaît l'homme que par l'économie et les travaux. Mais des travaux qui n'ont plus de sens, puisque ce n'est pas un travail pour l'homme, c'est un travail pour gagner sa vie. Ça va très loin, ça. C'est très impressionnant de regarder ça. Et donc, l'homme, alors, ce don est exprimé d'une façon particulièrement explicite, expressive dans le don de l'époux et de l'épouse, qui font un, tous les deux, dans un esprit, dans un même esprit d'amour, dans un échange, dans une communion d'amour. Et l'homme prend sa signification profonde dans cet échange d'amour. Ce n'est pas la seule manière d'être offert. Depuis le Christ, on peut être offert autrement que dans le mariage. À cause du Christ. Dans l'ancienne alliance, avant le Christ, l'homme ou la femme qui n'est pas mariée, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de célibataire dans l'ancienne alliance. Ça n'a pas de sens. C'est impensable. Le célibat n'aura de signification possible que dans l'offrande du Christ qui est offerte à l'Église. C'est ça la source de toute consécration. Ça va, c'est pas trop compliqué. Je suis désolé, c'est peut-être un peu vertical, mais on est. Je vous poserai des questions tout à l'heure si ça évoque des questions. Ce que je voudrais dire, et c'est ça finalement qui est... c'est pour ça que je veux dire tout ça, c'est que l'homme n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens autrement que dans l'offrande de la vie. Dès que j'essaye de posséder ma vie, dès que j'essaye de retenir ma vie, eh bien ma vie perd son sens, ma vie n'a plus de signification. Ma vie n'a plus de sens, ça veut dire que je deviens absurde, ma vie devient incompréhensible. Puisque ma vie, mon être même créé par Dieu, c'est dans et pour le don. Et au fond, le péché, c'est très exactement ce refus du don. Au lieu de donner, j'ai voulu prendre. Au lieu d'offrir, j'ai voulu retenir. Puis ça arrive tout le temps. Et c'est pour ça que je vois très clairement que l'offrande me libère alors que la possession m'emprisonne. Il n'y a pas plus libre que celui qui ne possède plus rien. Je me rappelle une conférence qui m'avait beaucoup marqué, il y a déjà bien, bien des années, une conférence sur le martyr. Si vous avez, on vous prend tous vos biens, mais je n'ai rien à moi, qu'est-ce que vous voulez me prendre? Moi, ça m'est égal. Enfin, vous prenez, mais il n'y a rien à prendre, j'ai déjà tout donné. Mais alors, si c'est ça, on vous tue. Mais ma vie est donnée, vous pouvez me tuer, ça m'est complètement égal. Ça ne change rien à mon être. Ma vie est offerte. Et si vous la prenez, et ça vous fera une belle jambe, vous n'aurez rien du tout. Vous ne posséderez rien de plus si vous m'enlevez la vie. Mais moi, j'entrerai dans la plénitude de la vie. Donc allez-y. Allez-y. C'est une conférence qui m'avait beaucoup frappé. Il n'y a pas plus libre que celui qui ne possède plus rien. Vous vous sentez empoté. Vous vous sentez emprunté, lourd, parce que c'est les possessions qui nous alourdissent. C'est ce qu'on essaye de retenir qui nous alourdit. Mais si on est dans ce mouvement d'offrande, alors peu à peu se crée ce grand mouvement de libération intérieure. Et il y a les biens extérieurs, mais il y a les biens intérieurs qui sont beaucoup plus difficiles à offrir. Et je retiens, j'ai une idée géniale, mais je la fais breveter pour surtout qu'on ne me l'applique pas. J'ai découvert quelque chose dans l'écriture, mais je ne le dis pas trop parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée. Et je possède, et malheureusement, on fait un peu la même chose avec la grâce. On voudrait posséder la grâce que Dieu nous donne. Et dès que je cherche à posséder la grâce, je la perds, elle se corrompt. Dès que j'essaye de retenir, ça se corrompt dans mes doigts. Et donc, c'est ça que je veux essayer de creuser. La vie n'a de sens, mais finalement, toute chose n'a de sens que dans la mesure où elle est offerte. Et au fond, Dieu ne me donne des biens, Dieu ne me donne la grâce que pour que je puisse offrir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Et dans les prières de l'offertoire, on dit souvent, on chante ça souvent, « Nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Nous n'avons rien d'autre à t'offrir que ce que tu nous donnes. » Et Dieu nous donne pour que nous puissions donner. Vous savez, les mamans font comme ça avec les enfants. Quand les mamans donnent une pièce à l'enfant à la messe, c'est pour que l'enfant puisse donner la pièce à la quête. L'enfant est tout content d'avoir donné sa pièce. Et maman est toute contente d'avoir donné une pièce à l'enfant. Maman pourrait très bien aller porter directement les paquets de Noël à la voisine. Mais c'est beaucoup mieux de donner le paquet à l'enfant qui va porter le paquet à la voisine. Ça multiplie la charité, ça multiplie le don. Et Dieu fait comme ça avec nous. Dieu ne nous donne que pour que nous puissions donner. C'est fort ça, non ? Il faut essayer de beaucoup réfléchir. Réfléchir d'abord, méditer, et puis contempler ce mouvement de l'offrande. C'est très exactement ce que Abel a compris et que Caïn n'a pas compris. Abin et Caël, non, c'est... L'histoire de Caïn et Abel, elle est extraordinaire, cette histoire. Je vous la refais, parce que c'est... Abel et Caïn sont tous les deux devant Dieu. Abel et Caïn offrent leur prière à Dieu. Le problème, c'est que Abel, lui, est tout entier devant Dieu et en offrande. Et donc, il y a ce colloque d'amour entre Dieu et Abel, parce qu'il y a une véritable liberté entre Abel et Dieu. Caïn, lui, c'est l'aîné. Vous savez, les aînés, ils ont toujours peur que les cadets passent devant. Vous savez, à la maison, hein, quand le deuxième est en train d'être né, il y a une crise de jalousie, il y a une grosse crise pour le né. Bon, ça dépend quel âge il a, ça dépend de beaucoup de choses, mais enfin, c'est fréquent quand même, la crise de l'aîné, hein. Et qui devient insupportable, qui allait parfaitement bien, mais qui tout d'un coup pique des crises, tape des pieds, devient insupportable, se met à mentir, refuse de manger. Enfin, c'est fréquent, c'est archi fréquent. Et les parents sont très, très désorientés devant ces réalités-là quand on n'est pas prévenu. Je me rappelle une petite nièce, la maman, le jour de Noël, avait mis dans le sapin un paquet, enfin, et c'était un petit bébé qui allait venir. Et alors, maman annonce qu'il va y avoir un petit frère ou une petite sœur. Oh ben zut alors, dit oh ben moi j'en veux pas. Caïn, qui est l'aîné, a peur que le cadet, que Abel prenne le dessus. Et Caïn est le fils de l'orgueil. Et donc Caïn, au lieu d'être centré sur Dieu, est centré sur lui. Et donc, au lieu d'être comme Abel l'est en échange et en colloque avec Dieu, Caïn surveille son frère Abel. Et il découvre que son frère Abel est en colloque avec Dieu et que Dieu répond à sa prière. Et Caïn ne comprend pas que Dieu réponde à la prière d'Abel et que Dieu ne réponde pas à sa propre prière. Mais cette espèce d'imbécile, au lieu de s'occuper de son frère, il devrait s'occuper de Dieu, et il verrait que Dieu l'aime autant. Mais Caïn ne le supporte pas, il est jaloux, et cette jalousie le conduit à trucider son frère. C'est très très puissant cette histoire, parce que c'est notre histoire. Hein. C'est notre histoire. Au lieu de me réjouir de ce que mon frère, quel que soit ce frère, au lieu de me réjouir que mon prochain soit aimé de Dieu, je me plains de ne pas être aimé de Dieu. Mais parce que au lieu d'être dans cette relation à Dieu qui éclaire toute chose, je suis tellement centré sur moi que je voudrais moi. Mais voilà, c'est le sens, c'est l'envers de l'offrande. Et dès que je suis dans l'envers de l'offrande, dès que je suis dans l'envers de l'offrande, je perds le sens et donc j'oublie que Dieu m'aime. J'oublie de me laisser aimer. Ça, c'est notre histoire à tous, hein. C'est notre expérience à tous. Dans la prière eucharistique, dans le canon romain, c'est-à-dire la prière eucharistique qui a, pendant des siècles, été la seule, on parle de le sacrifice et des présents que t'offrit notre Abel le juste. Hein. J'ai pris cette prière eucharistique tout à l'heure. Les présents d'Abel le juste. Première préfiguration eucharistique. Prophétie qui annonce l'Eucharistie, les présents d'Abel le juste, qui sont à l'envers de la retenue de Caïn. Et le sacrifice que t'offrit le sacrifice de notre père Abraham, c'est quoi le sacrifice de notre père Abraham ? Son fils Isaac, que Abraham n'a pas hésité à offrir à Dieu, dans quelque chose qui reste extrêmement mystérieux. Hein. C'est le fils de la promesse qui est... On a mis des je ne sais pas combien de centaines d'années, ou je sais pas, il avait quel âge Abraham à la naissance d'Isaac ? Vous vous rappelez de ça ? Il avait 100 et quelques années, non ? 80 ? 90, dans ces goûts-là. Oui. La jeunesse. Ça veut dire qu'il a attendu, vous voyez, il a attendu très 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 longtemps pour la réalisation de la promesse, mais il a quand même espéré au-delà de l'espérance, malgré la petite... c'est sa femme qui l'a un peu trompé, parce que des fois que Dieu ne réponde pas, tu devrais faire un enfant avec la servante, puisque moi je ne peux pas t'en donner. Bon, et Abraham, c'est imbécile, il s'est laissé faire. Alors il a fait Ismaël avec Agar. Enfin, globalement, Abraham a maintenu l'espérance. Dieu a répondu à l'espérance. Il lui donne un enfant, et aussitôt après, Dieu lui demande de sacrifier cet enfant. Sans doute influencé par les voisins qui offraient les enfants en sacrifice, Abraham se dit, bon, Dieu me demande d'offrir un sacrifice de mon fils. Dieu ne demandait pas ça. Dieu interdisait violemment les sacrifices d'enfants. Mais Abraham n'a pas hésité, tellement il aime Dieu et tellement il rend à Dieu tout ce qu'il a reçu, Abraham répond au commandement de Dieu et donne son fils. Au dernier moment, vous vous rappelez, l'ange va retenir sa main, puisque je sais maintenant que tu m'as préféré à ton fils. Je sais maintenant que tu n'as pas hésité, que ta foi n'a pas hésité. Que ton offrande va jusque-là. Dieu demandait à Abraham, en réalité, cette offrande, c'est-à-dire de ne plus regarder son fils comme sa propriété, et comme le fils offert, et Dieu demandait à Abraham d'offrir son fils, c'est-à-dire de le regarder dans un regard d'offrande permanent. Ça va très loin. Est-ce que je regarde ma femme comme un don et que j'offre en permanence? Est-ce que je regarde mon mari, mes enfants, mon prochain, mon frère, ma sœur? Est-ce que mes proches... Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient? C'est à moi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est à moi que parce que c'est offert? Sacrifice d'Abraham, il faut beaucoup, beaucoup travailler cette histoire du sacrifice d'Abraham. Et ne serait-ce que là, à cette étape, je peux m'arrêter en me disant c'est un sacré travail d'apprendre à offrir. Hein. Sacrifice que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre. Alors Melchisédek, c'est assez mystérieux. Hein. Vous savez où on trouve Melchisédek dans la Bible ? Où est-ce qu'on trouve Melchisédek dans la Bible ? Hein ? Ancien Testament, oui, gagné, mais c'est quand même encore assez vague. Comment ? Dans la Genèse, bien sûr, dans la Genèse, chapitre 14 de la Genèse, 14. Melchisédek, il apparaît, il disparaît. Hein. C'est très très rapide. Roi de Salem. Roi de Salem, roi de paix, roi de Jérusalem, roi de la ville de paix. Quand Abraham revint après avoir battu Kedor, Lohamer et les rois, Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome alla à sa rencontre dans la ville de Chavé, c'est-à-dire la ville du roi. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui créa ciel et terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est la seule apparition de Melchisédek, mais l'épître aux Hébreux s'est fondée sur cette offrande de Melchisédek pour y voir les prémices, ce qui annonçait l'Eucharistie, et au point que l'Église, les pères de l'Église et l'Église elle-même a vu dans l'offrande de Melchisédek le premier signe de l'offrande du grand prêtre, du prêtre parfait, du sacrifice parfait. Le sacrifice pur et saint, sacrifice de Jésus. Donc, comme si Melchisédek était la première préfiguration de Jésus lui-même, qui apporte le pain et le vin pour le sacrifice. C'est très mystérieux, ça reste dans l'Écriture, les exégètes en parlent, en discutent énormément. Ça reste quelque chose de très mystérieux, mais ça vient là comme une apparition. Il y a quelques passages comme ça dans l'Écriture qui restent un peu inexplicables, inexpliqués, mais qui sont comme des annonces, des éclairs qui annoncent ce qui vient plus tard, en signe du sacrifice parfait. Alors une grande préfiguration de l'Eucharistie dans l'Ancien Testament, vous diriez tout de suite, instantanément, la manne dans le désert, la manne, la nourriture qui vient du ciel. Très très intéressant la manne. La manne, il y a beaucoup de caractéristiques de la manne. D'abord elle vient du ciel, mais il faut la ramasser quand même, il y a un travail. Elle ne tombe pas dans la bouche comme ça, il y a du travail pour la ramasser. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas en faire de réserve. Hein, quand on voudrait faire la grasse mat le dimanche et qu'on voudrait faire double ration à ramasser le samedi pour pouvoir dormir le dimanche matin, ce qu'on a ramassé est pourri. Donne-nous aujourd'hui le pain d'aujourd'hui. La grâce, c'est au présent, pas pour demain. Pas pour hier, ça n'existe plus. Pas pour demain, ça n'existe pas encore. La grâce, c'est aujourd'hui. L'amour est au présent, jamais au passé, jamais au futur. L'amour est au présent. Intéressant, ça. L'offrande que j'ai faite hier, il faut que je la refasse aujourd'hui. Et je ne peux pas faire aujourd'hui l'offrande de demain. Il faut que j'apprenne à entrer en état d'offrande. C'est-à-dire que ma vie devienne une offrande, tout simplement. Je n'ai pas de vie autrement que dans l'offrande. Et chaque événement de ma vie, chaque moment, chaque événement de ma vie est pour m'apprendre à offrir et à être de plus en plus dans l'offrande. Au fond, tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, ça c'est une vision très humaine de voir le bien et le mal, hein. En heureux ou malheureux, ça c'est très humain aussi de regarder ça. Tout ce qui m'arrive, en réalité, est pour m'apprendre à offrir. Sinon ça n'a pas de sens. Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais une maladie, si ce n'est pas pour l'offrande, ça n'a pas de sens. C'est absurde, c'est révoltant. Et on se cogne sur un mur qui résiste, parce que c'est un fait. Mais si c'est pour apprendre à offrir, alors ça prend tout son sens. Et c'est beau. Même le mal peut se transformer en bien dans l'offrande. C'est extraordinaire, ça. L'autre caractéristique de la manne, ça aussi, c'est très, très intéressant. Chacun ramasse selon son appétit et selon ce qu'il a à nourrir. C'est-à-dire, Dieu donne à la mesure de l'appétit, pas plus, pas moins. Augmentez l'appétit, vous aurez plus. Et la mesure, chacun ramasse un gomore. Le gomore, c'est la mesure que Dieu donne en fonction de l'appétit que j'ai, en fonction de ce que je peux manger, en fonction de mon besoin, mais mon besoin qui est réglé aussi par l'appétit. C'est-à-dire Dieu donne toute la grâce nécessaire, mais seulement la grâce nécessaire. C'est beau ça, non ? Quand, c'est un souvenir de petit garçon, mais chez mes parents, jamais on ne coupait un gâteau en part égale. Maman, à quoi j'ai droit ? T'as droit d'aller te coucher, mon petit garçon. Mais combien je peux prendre ? Ben, regarde ceux qui restent à servir, regarde ton appétit à toi, et sers-toi en fonction de ce que tu penses. Ça, c'est de l'éducation. C'est extraordinaire, non ? Maman, je veux un gros morceau, mais mon chéri, c'est normal, à 15 ans, tu as un appétit qui est plus important que ton petit frère qui en a 7. Donc c'est normal que tu aies un... Mais il a un morceau plus grand que moi. Mais oui, mais il n'a pas le même âge, il n'a pas le même appétit. C'est normal. L'égalité est la pire des injustices. L'équité, c'est autre chose que l'égalité. Alors, dans l'Ancienne Alliance, encore un grand sacrifice qui préfigure l'Eucharistie. Un sacrifice maus. Ceux qui sont allés en Terre Sainte avec moi ne peuvent pas ne pas le savoir. Un énorme sacrifice qui a eu un retentissement colossal dans l'histoire. Oh. Allez, ceux qui étaient en Terre Sainte avec moi. Quand même. On est allé au mont... Non, pas Tabor. Carmel, le mont Carmel, le sacrifice du Carmel, le sacrifice d'Élie. Sacrifice d'Élie, c'est extraordinaire, le sacrifice d'Élie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le sacrifice d'Élie. Mais ce qui est très important, ce qui est magnifique, c'est que c'est les hommes qui préparent le sacrifice, qui tuent les bêtes, qui préparent le bois pour le feu, qui on dispose tout, mais c'est Dieu qui mettra le feu. Et sans l'intervention de Dieu, le sacrifice ne peut pas avoir lieu. C'est extraordinaire parce que c'est la coopération de Dieu et de l'homme. Et les faux dieux ne répondent pas. Et c'est bien à ça d'ailleurs qu'on voit que c'est des faux dieux. Tandis que le vrai Dieu répond et répond tellement que tout est brûlé, même l'eau qui est dans le bassin et tout est brûlé complètement. Il n'y a plus rien. C'est extraordinaire le sacrifice d'Élie. Hein. C'est vraiment un magnifique passage de l'Ancien Testament. Et qui est très très instructif, qui nous apprend beaucoup de choses. C'est une grande préfiguration d'abord de l'offrande de Jésus lui-même, qui s'offre dans l'amour du Père, par amour pour le Père, mais c'est le Père qui reçoit le sacrifice. Et donc il est mort, il est vraiment mort. Parce que le sacrifice est reçu. Et si Jésus s'était offert mais qu'il n'était pas mort, ben, ça veut dire que Dieu ne... On ne va pas jusqu'au bout du sacrifice. Dieu ne serait pas Dieu si Jésus n'était pas mort. Puis on y voit aussi, on y voit le sacrifice, du coup, l'offrande de la Vierge Marie, le sacrifice du Mont Carmel, est une magnifique préfiguration aussi de Marie tout entière offerte à Dieu. Et elle reçoit l'incarnation du Verbe dans son offrande. Je voudrais vous lire, évidemment, parce que l'heure tourne, alors je vais un peu vite, mais parce que c'est intéressant le sacrifice d'Élie. Vous trouvez ça où, le sacrifice d'Élie ? Comment ? Quoi ? Oui, dites. Le cycle d'Élie, vous trouvez ça où ? Dans l'Ancien Testament, oui, ça c'est sûr. Alors, premier ou deuxième livre des Rois ? Premier livre des Rois, chapitre 18. Ça fait partie des références qu'il faut un peu... Vous voyez, c'est pas dans le livre des Chroniques, c'est pas dans la Genèse, c'est pas dans le livre des Juges, livre des Rois. Le cycle d'Élie, c'est quand même un morceau tellement, tellement extraordinaire. Chapitre 18 du premier livre des Rois. Un autre sacrifice très important d'un roi, je vous le dis, sacrifice de David, très beau ça, premier livre des chroniques, au chapitre 29. Je vous lis cette magnifique prière parce qu'elle est, elle est reprise d'ailleurs dans l'office de dans notre office du bréviaire. David bénit le Seigneur sous les yeux de toute l'assemblée et il dit « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent, tu es maître de tout. Dans ta main sont la puissance et la force, à ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. » À cette heure, ô notre Dieu, nous te célébrons, nous louons ton éclatant renom. Car qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple pour avoir les moyens suffisants pour nous engager ainsi? Car tout vient de toi et c'est de ta main même que nous t'avons donné. Vous voyez, on a déjà des phrases qui sont presque intégralement retenues dans notre liturgie. Hein. Nous ne sommes devant toi que des étrangers et des hôtes, comme tous nos pères. Nos jours sur terre passent comme l'ombre et il n'est point d'espoir. Seigneur notre Dieu, tout ce que nous avons amoncelé pour la construction d'une maison à ton saint nom provient de ta main et tout est à toi. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu te plais à la droiture. C'est d'un cœur droit que j'ai engagé tout cela et à cette heure j'ai vu avec joie ton peuple ici présent s'engager envers toi. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde à jamais cela, forme-en les dispositions du cœur de ton peuple et fixe en toi leur cœur. À mon fils Salomon, donne un cœur intègre pour qu'il garde tes commandements, tes témoignages et tes lois, qu'il les mette tous en pratique et bâtisse ce palais que je t'ai préparé. C'est formidable ça, hein, c'est une belle... Si vous êtes à court de prières dans l'adoration, là, prenez des prières comme ça, c'est magnifique, c'est très très beau. Et ce qui est intéressant, on va le redire tout à l'heure, mais dans cette prière de David, il y a à la fois la prière de louange et la prière d'action de grâce. Pour ceux qui sont dans les cellules, ça parle, ça. Hein, prière de louange, je te rends gloire, Seigneur, pour ce que tu es. Je te rends gloire parce que tu es Dieu. Je te loue pour ton saint nom, je te loue pour ta création, je te loue pour ce que tu es. Et aussi, je te rends grâce pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu nous donnes. Mais ce n'est pas pareil, la louange et l'action de grâce. Hein. La louange, elle monte vers Dieu à cause du fait qu'il est Dieu. L'action de grâce, c'est ce que ta main nous a donné, c'est ce que tu fais pour nous. Alors les deux, finalement, petit à petit, ils ne vont faire qu'un. Mais c'est très important de les distinguer pour bien comprendre les deux mouvements. Et dans l'Eucharistie, il y aura les deux. Prière de louange et d'action de grâce. Dans l'offrande de Jésus sur la croix, il y a les deux. Il y a la louange à Dieu Père et l'action de grâce parce que Jésus remercie, rend grâce parce qu'il a tout reçu de Dieu. Je te loue pour la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. Je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce parce que... Mais je loue ton nom très saint. Et très souvent, dans la prière de Jésus, il y a les deux comme ça. Alors évidemment, à la jointure des deux testaments, c'est Marie qui est la figure parfaite de cette offrande. Je ne fais que mentionner, parce que... Mais relisez le Magnificat, Marie dans le Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Ça, c'est louange pure. « Parce qu'il s'est penché sur son humble servante, action de grâce. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. » Et dans la prière de la Vierge Marie, il y a cette offrande de tout elle-même, parce qu'elle est la servante du Seigneur, parce qu'elle est tout entière offerte, elle reçoit tout. Et elle reçoit tout à la mesure de son offrande. Vous voyez, Jésus offert reçoit du Père la divinité même, de même nature, substantielle au Père. Marie, elle ne reçoit pas la divinité, elle n'est pas Dieu, mais elle reçoit Dieu tout entier quand même. Elle devient mère de Dieu. Comment l'infini de Dieu peut-il être présent dans le fini du sein de Marie? Comment Dieu infini peut-il être contenu dans les limites du sein de Marie? C'est parce que l'infini de Dieu est contenu dans l'infini de l'humilité de Marie. Qu'est-ce que c'est l'humilité de Marie? C'est l'offrande d'elle-même. Elle est tout entière, elle est absolument immaculée, elle est absolument offerte à Dieu qui est Père. Et Dieu Fils peut trouver place en elle et prendre chair de sa chair. C'est fantastique. Alors, Marie, il y a quelques moments de la vie de Marie, évidemment, où cette offrande... Et elle est substantielle, la présentation de Jésus au temple, elle offre son fils, elle l'offre absolument. Ce fils, c'est son fils, mais son fils est offert. Elle l'offre dans la joie de la présentation de Jésus au temple, encore qu'il y a la prophétie de Siméon qui est « un glaive te transpercera l'âme ». Et puis elle l'offre douloureusement dans un mystère pourtant classé dans les mystères joyeux, au moment du cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Est-ce que je ne dois pas être aux affaires de mon père? Et Marie offre son fils aux affaires de son père. Sans comprendre, dit l'Évangile. L'Évangile précise, et ça c'est formidable comme précision, l'Évangile précise que Marie n'a pas compris. Mais elle garde précieusement toutes ces choses dans son cœur pour le méditer. Cana, la prière de Marie à Cana, on l'a déjà souvent mentionné, mais la prière de Marie à Cana, elle souligne et elle s'efface. La gratuité de la prière de Marie, c'est extraordinaire. Nous avons du mal à avoir des prières gratuites, nous autres. Nous avons du mal à avoir des prières gratuites. Seigneur, je ne voudrais pas te dire, mais si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais quand même. Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, je signale, voilà, ils n'ont pas de vin. Maintenant, à toi de voir. À toi de voir ce qui est de mieux. Si tu préfères qu'ils arrêtent de boire, ben, t'as qu'à le dire. Si tu préfères qu'ils aient du vin et du vin nouveau, tu peux tout faire. Mais c'est toi qui sais. C'est formidable, ça. La prière de Marie à Cana est magnifique. Quel détachement, quelle gratuité. Si on parle de l'Eucharistie, il faut au moins mentionner évidemment la multiplication des pains, le miracle de l'équivalent des pains. Parce que c'est là qu'on voit très bien qu'il faut apporter ne serait-ce que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes? Ridicule. Mais ça suffira pour nourrir la foule. Comment?
Et il en restera.
Il en restera 7 paniers pour 7000. Et 12 paniers parce qu'il y a les deux multiplications des pains. Hein. Une fois, il reste 7 paniers, une fois, il reste 12 paniers, qui disent deux choses différentes, la plénitude et puis les 12 tribus d'Israël. Enfin, c'est intéressant, tout ça. Et évidemment, la multiplication des pains précède le grand discours sur le pain de vie, dans le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, où Jésus enseigne pour la première fois que c'est son corps qui est la vraie nourriture et son sang la vraie boisson. Et Jésus, dans le chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, dans son enseignement du pain de vie, a un mot qui est évidemment clé pour ce qui nous intéresse, nous. Pardon, je suis aux actes des apôtres, ça ne va pas du tout. Un mot absolument clé pour nous, ici, à notre âme du travail, dans notre thème. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, mais que ses disciples étaient partis seuls. Cependant, Des barques étaient arrivées de Tibériade, près de l'endroit où l'on avait mangé le pain. Quand la foule s'aperçut que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens montèrent dans les barques et passèrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain tout votre soûl. Travaillez non pas pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. » Celle que vous donne le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pas pour les nourritures périssables, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Ils lui dirent alors, que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Le travail est finalisé pour la vie éternelle, par la vie éternelle. Le travail n'a pas d'autre sens que la vie éternelle. Le travail n'est pas pour le repos et les loisirs des vacances ici-bas. Le travail, c'est pour la vie éternelle. Travailler en nourriture pour la nourriture de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Alors, je fais quelques sauts au-dessus de... Mais il faudrait développer tout ça. Il faudrait travailler pour la vie éternelle, pour la nourriture de vie éternelle, ça veut dire travailler pour l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui va donner un sens au travail. Comment est-ce que l'Eucharistie peut donner un sens au travail ? C'est parce que j'offre mon travail qui devient le pain, le vin, matière de l'Eucharistie. Les espèces eucharistiques. Et quand on vient offrir le fruit du travail au pied de l'autel, pour que ce travail contribue à ce qui est la matière. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail, c'est fruit de la terre, c'est-à-dire fruit de ce que tu nous as donné. Nous ne t'offrons que ce que tu nous as donné, mais nous te l'offrons en ayant travaillé pour le transformer. Et c'est là que le travail prend tout son sens. Sans ça, le travail n'a pas de sens. Enlever l'Eucharistie, le travail n'a plus de sens. On peut bien faire des batailles politiques à perte de vue, mais tant qu'on ne connaît pas l'Eucharistie, eh ben, ces batailles politiques, finalement, sont vouées à l'échec. Ça va très loin, ce que je dis là, hein, mais je pense qu'il faut aller jusque-là. Évidemment, on ne va pas faire un meeting pour dire ça dans les meetings politiques, mais nous le savons. Nous le savons. Nous savons que rien ne peut aboutir que par l'Eucharistie. Comment est-ce que le travail peut devenir justement cette matière, c'est la terre et le fruit de la terre et du travail des hommes. C'est parce que dans le travail, je m'accomplis moi-même, parce que dans le travail, je me donne moi-même. Mais c'est ça qui est vraiment clé pour le travail. Est-ce que je travaille pour pouvoir réaliser ce pain eucharistique ou est-ce que je travaille pour gagner des sous et partir en vacances ? Si je travaille pour gagner des sous et partir en vacances, eh bien c'est un travail qui m'épuise. Et mes vacances peuvent bien durer 3 ans, c'est un travail qui m'épuise, parce que c'est un travail qui ne nourrit pas. Si c'est un travail qui est offert, alors mes vacances seront encore une certaine forme de travail, pour rendre gloire à Dieu. Mais pas pour mon petit plaisir de nombril. C'est-à-dire, le travail ne prend de valeur que s'il est offert. Qu'est-ce que j'offre dans le travail ? C'est moi, j'offre mes forces. Mais aujourd'hui, dans notre système social, aujourd'hui, le travail n'est considéré d'abord que... La première considération du travail, c'est la pénibilité. Le travail ne sera humain que s'il n'est plus pénible. Mais ce n'est pas du tout ça la question. Parce que d'une manière ou d'une autre, le travail sera toujours pénible. Et comment est-ce qu'on peut mesurer ? Il n'y a pas d'instrument pour mesurer un travail pénible. Il y a des travaux qui sont plus physiques que d'autres, mais ça ne veut pas dire que le travail sur un ordinateur est moins pénible que le travail à casser des cailloux. Enfin, c'est... Oui, il y a des travaux qui sont dangereux. Oui, il y a des travaux qui sont... Les commandos qui risquent leur vie pour sauver la vie des otages, c'est un travail pénible. Mais on essaye de mesurer ça avec des instruments qui n'en sont pas. Donc on est... Enfin, c'est perdu d'avance.
Il y a quand même des travaux plus épanouissants que d'autres.
Ben, bien entendu, mais c'est pas la pénibilité. Les instruments qui mesurent aujourd'hui la pénibilité n'ont aucune considération pour l'épanouissement de la personne humaine. Et c'est ça qui est terrible. Mais quelqu'un qui s'épanouit en conduisant un train, il peut parfaitement s'épanouir et c'est un travail pour lui beaucoup moins pénible que de compter des haricots. Enfin, j'en sais rien. Je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que le travail n'a de sens que s'il est offert. Qu'est-ce que j'offre dans le travail? C'est moi que j'offre. Parce que la véritable offrande, c'est Jésus qui s'offre lui-même. Jésus, sur la croix, est à la fois autel, prêtre et victime. Il s'offre lui-même, et lui, parce qu'il est Dieu et parce qu'il est Christ, il s'offre lui-même. Il s'offre sur lui-même à Dieu, Père. Et c'est ça qui donne sens à mon travail. Et si on veut chercher le travail et l'Eucharistie dans la spiritualité de notre âme du travail, il faut regarder Marie au pied de la croix. Dans tout ce qu'on a essayé de mentionner dans l'Ancien Testament, et qui sont des préfigurations, quelle est la place de Marie dans l'offrande de Jésus? Voilà la question. Quelle est la place de l'offrande de Marie dans l'offrande de Jésus? Marie s'unit à l'offrande de son fils au point qu'elle est transpercée par le glaive. Elle n'est pas, les clous ne transpercent pas ses mains, mais les clous transpercent son cœur. Elle est offerte avec lui, par lui, en lui. Et elle est offerte complètement. Une offrande totale. Son offrande est parfaite. Je pense qu'il faut même aller plus loin. De la même manière que Marie a offert Jésus bébé, Marie va offrir Jésus cadavre. Et ça, c'est l'offrande de l'Église qui va jusqu'au bout. Jésus s'offre lui-même, mais une fois qu'il est mort, il ne peut plus s'offrir. Alors il se remet entre les mains de sa mère pour que sa mère l'offre, pour que la mère offre la victime pour le sacrifice. Le sacrifice est total, le sacrifice est achevé. Mais Dieu permet que le sacrifice aille plus loin quand même par les mains de Marie, par l'offrande de Marie. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'offre Jésus qui s'est offert. Alors je peux dire, Père, que ton nom soit sanctifié. Je reprends la prière, j'entre dans la prière de Jésus. La première qui entre dans la prière de Jésus, c'est Marie. Ça, c'est époustouflant. Marie apprend à Jésus à prier, mais c'est Jésus qui apprend à sa maman à prier. Marie a appris à Jésus les mots de la prière, mais c'est Jésus qui apprend à Marie la prière du Fils. Et si Jésus nous a donné notre Père, la prière du Fils au Père, évidemment, celle qui le dit de façon parfaite, c'est Marie. Alors elle reçoit ce don de l'Eucharistie qui l'unit à son Fils encore plus profondément que quand elle portait son Fils dans la chair. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais entendu ça, mais pour moi, c'est devenu une réalité considérable. Marie est plus unie à son Fils par l'Eucharistie que quand elle porte son Fils dans le sein. J'insiste beaucoup là-dessus souvent. Quand une maman porte un enfant, il y a deux cœurs qui battent, il y a deux circuits sanguins. Au point que, moi ça me fascine, le sang de l'enfant est quelquefois incompatible avec le sang de la mère. Et donc, même si la vie de l'enfant est totalement dépendante de la vie de la maman, il y a quand même deux vies. Dans l'Eucharistie, ce n'est plus le cas. Il n'y a qu'une seule vie. Parce que le sang qui coule dans les veines de Marie, c'est le sang de Jésus. Elle boit le sang, elle mange le corps. Et pour moi, vivre, c'est le Christ, dit saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que c'est considérable l'Eucharistie. C'est ce qui fait que je suis un avec lui. Et que nous sommes un les uns avec les autres. Nous sommes plus liés par le sang du Christ, nous sommes plus liés par les liens de l'Eucharistie que par les liens de la chair et du sang de notre mère. Nous sommes plus frères et sœurs par les liens de l'Eucharistie que je ne suis frère de mon frère de chair. C'est fou ça, mais c'est une réalité. Si je partage la foi avec mon frère de sang, avec ma sœur de sang, et que nous vivons l'Eucharistie ensemble, eh bien les liens de l'Eucharistie nous emmènent, nous, frères et sœurs, à aller beaucoup plus loin dans la fraternité, dans la communion fraternelle. Parce qu'on passe d'une réalité humaine à une réalité divine. Et ne soyez pas jaloux de Marie enceinte de Jésus, vous avez plus avec l'Eucharistie. Alors ce serait intéressant de voir que l'Eucharistie, ce qui introduit l'Eucharistie dans l'évangile de Saint Jean, c'est le lavement des pieds. C'est une réalité que nous aimons beaucoup ici et que nous avons beaucoup pratiquée, que j'ai reçue moi de Jean Vanier qui était enterré cet après-midi. Donc on a une grande prière avec lui et pour lui. Et puis une action de grâce au Seigneur qui nous a donné Jean, cette figure extraordinaire pour notre temps. Voilà, l'Eucharistie, on peut regarder l'Eucharistie sous une quantité d'axes, sous une quantité de regards, mais il me semble que dans cette perspective de la spiritualité de notre âme du travail, essayer de regarder le lien entre le travail et l'Eucharistie, c'est finalement ce qui éclaire complètement notre vie et donc notre paroisse. Notre paroisse n'a de sens que pour ça. C'est là qu'est le cœur. C'est pour ça que l'adoration eucharistique permanente, pour nous, plus que pour n'importe quelle autre paroisse, elle prend une signification particulière pour nous. Et je pense que, je crois vraiment que Dieu nous a donné ce mystère pour notre édification, pour notre sainteté, mais aussi Dieu nous a confié ce mystère pour que nous puissions le transmettre. Je pense, je le crois de plus en plus. C'est-à-dire qu'en nous appelant notre âme du travail, Dieu nous confie, le Christ nous confie une mission. Une mission pour faire connaître cette réalité que nous avons essayé avec les années de pénétrer un petit peu. Mais c'est une mission à poursuivre, c'est une mission pour que la paroisse soit accueille dans le sanctuaire à la Vierge du Travail, dans lequel l'Eucharistie a une place privilégiée. Voilà, je pense que je m'arrête là. Si vous avez une question ou deux à poser... Marie-Thérèse ?
Dans la pratique un petit peu de ce que tu vois à l'accueil, de ce qu'on entend aussi dans le cahier d'intention et des prières, je pense que ce que vous avez dit là, bon, et qui se reflète dans la prière de Notre-Dame du Travail avec l'Eucharistie, mais je crois que ça échappe à beaucoup. On se cantonne beaucoup, et ce qui est très important, une demande de travail, un remerciement pour avoir eu un travail, et ça c'est très très important. Mais ce sens profond, je crois qu'il y a très peu...
Il y a encore un vrai travail à faire pour le faire comprendre.
Et ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui, avec des mots relativement simples, qui puisse leur faire toucher du doigt...
Ce sera tout le travail de l'exploitation de la vision pastorale qu'on a beaucoup travaillé avec le conseil pastoral, mais qui sera, que je voudrais léguer en, en héritage à la paroisse en partant, parce que j'espère encore avoir l'imprimature pour cette vision pastorale avant de partir, et auquel cas je voudrais la léguer en fin juin, enfin en partant. Mais ce serait un gros travail pour exploiter justement cette vision pastorale qui dit exactement ce que vous dites, c'est-à-dire pour donner avec des mots simples, mais il faudra l'exploiter, et ça serait mon successeur qui le fera.
Et
tout à fait, tout à fait.
C'est déjà bien, mais ça perd une dimension.
La phrase clé qui résume tout, par Marie et avec Marie, tout offrir à Jésus. Mais c'est ça qu'il faut, et qu'il faut développer, qu'il faudra exploiter, qu'il faudra creuser. Et ça, ce sera le travail du conseil pastoral avec mon successeur et votre travail à tous pour poursuivre cette mission. Parce que je pense que on a essayé pendant quelques années d'ouvrir des portes, mais maintenant il faut les consolider, il faut creuser, il faut chercher davantage. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je suis. C'est bien pour ça qu'on fait ça. Enfin, je pense que ça commence. L'Évangile a commencé avec 12 qui sont entrés, qui n'ont rien compris au départ, mais qui ont petit à petit compris, puis qui petit à petit ont porté ça au monde. C'est par capillarité que ça se fait. Mais je pense en effet que cette vision de l'Eucharistie et cette vision du travail est très rare. Enfin, elle est très peu connue, même tout simplement. Mais je pense que ça fait partie de notre mission, justement, qu'on a reçue, d'abord de recevoir cette réalité, cet enseignement. On est loin d'avoir exploité encore tout ce que Jean-Paul II nous a dit sur le travail. Enfin, il y a encore pas mal de trucs à exploiter. Il y a de la matière encore, hein. Beaucoup.
Vous avez insisté sur le fait que le travail sera toujours pénible.
Oui. À cause du péché, ça c'est une punition
ça, c'est
du péché.
À cause du péché. Et comment faire le lien entre ce travail, l'offrande, il y a toujours le péché qui est là.
J'offre aussi la pénibilité de mon travail. Ouais. C'est-à-dire, dans l'offrande de mon travail, j'offre aussi cette pénibilité, cette peine. Et j'offre cette peine, et à mesure que j'offre cette peine devient source de grâce. Au fond, la punition du péché, le travail est donné à l'homme avant le péché, c'est-à-dire le travail n'est pas une conséquence du péché. Hein. Le travail, c'est avant le péché. Mais le péché a fait que le travail est devenu pénible. C'est à cause du péché que le travail est devenu pénible. Bon. Mais comme toute punition, comme toute peine, quand elle est divine, la peine est médicinale, c'est-à-dire que la peine nous guérit, la peine nous soigne. Et donc il est bon pour nous que le travail soit pénible, parce que c'est une manière de permettre justement cette offrande qui est une offrande... Justement, plus j'offre cette peine du travail, et plus cette offrande prend du sens et du prix. Si vous voulez, l'offrande de Jésus dans l'éternité, c'est une offrande joyeuse et éternellement joyeuse. Mais dans ce monde et de ce côté-ci de la mort, elle est devenue une mort sanglante. Elle est devenue une offrande sanglante dans les affres de la passion, à cause du péché des hommes. Lui qui n'a pas péché offre le sacrifice parfait, qui est le sacrifice d'amour parfait, mais qui est un sacrifice sanglant, c'est-à-dire avec toute la peine de tous les péchés de tous les hommes. On n'est pas une religion masochiste, hein. Ça veut dire que c'est pas plus le travail est pénible et meilleur il est. Hein. Plus j'ai un travail pénible et plus je dois être content et dire merci Seigneur de me donner un travail très pénible. Ça, ce serait atroce, ce serait abominable. Hein. C'est comme la souffrance. Plus je souffre et plus c'est bon. Donc Seigneur, envoie-moi encore de la souffrance, ça me fait du bien. Enfin, c'est complètement toqué. Mais c'est l'amour qui est la mesure. Mais un travail qui n'est pas pénible, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et rêver d'un monde où le travail n'est plus pénible, c'est un rêve, c'est une utopie parfaite. Ce sera peut-être moins pénible pour certains qui seront assis dans les canapés, mais pendant ce temps-là, il y en aura encore aux cuisines et dans les caves. Non mais c'est sûr. Hein. Allez, prions et rendons grâce à Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de la Vierge Marie, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et tous les vôtres, et il demeure à jamais.
Amen.
Amen. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne nuit.
Merci à vous.